Europe 1, il est 18h.
Très chaud, donc soit on reste enfermé chez soi mais sans la clim c'est compliqué, ou alors on essaie de trouver voilà des terrasses ou encore mieux des points d'eau.
Et oui, il a fait chaud, très chaud cet après-midi, 37 degrés à Lyon. Le pic de chaleur qui a envahi la France de Bordeaux à Nice remonte la vallée du Rhône. Il est bien là, nous serons en direct de la capitale des Gaules dans un instant.
C'est sous cette très grosse chaleur que le président Macron est arrivé dans le Var pour prendre ses quartiers d'été dans le fort de Briançon.
C'est un autre coup de chaud qui a frappé l'Amérique ce matin au réveil. Un tweet signé Donald Trump qui s'interroge tout simplement sur un possible report des élections du mois de novembre prochain. Le chauffeur du poids lourd impliqué dans la mort des 4 enfants sur la Nationale 2 près de Laon vient d'être mis en examen pour homicide involontaire. Les poids lourds dans le collimateur des autorités qui ont multiplié ce matin les contrôles sur l'autoroute A3.
Faire respecter les distances de sécurité, la vitesse, les temps de conduite, les temps de repos au niveau des poids lourds, tout ça, ça fait baisser l'accidentalité.
Retour dans ce journal sur la carrière d'une grande figure du gaullisme, l'ancien garde des Sceaux Albin Chalandon s'est éteint. Il venait de célébrer ses 100 ans.
Le constructeur automobile français Renault annonce une perte record de 7,5 milliards d'euros. Alors que le produit intérieur brut américain s'effondre de plus de 30% au deuxième trimestre, les bourses européennes chutent très lourdement. Moins 3,45 à Francfort, moins 2,31 à Londres. Paris cède 2,13% à 4 852 points.
La tendance météo. Bonsoir Valérie Darmon, la canicule s'étend.
Eh bien, 13 départements sont en alerte orange canicule, de l'Ardèche et de la Drôme au Doubs et à la Côte d'Or. Ce nouveau pic de chaleur qui a concerné particulièrement le sud-ouest aujourd'hui va donc toucher la façade est demain avec des maximales entre 34 et 38, localement 39 et 42 par exemple à Auxerre, mais le reste du pays va étouffer aussi.
Europe 1. Écoutez le monde changer. Thierry Dagiral, François Claus.
C'est du Donald Trump dans le texte et dans la forme. L'Amérique s'est réveillée ce matin avec ce tweet en forme de question. Et si l'on reportait les élections, tout simplement, lance Donald Trump, qui avait déjà évoqué ces derniers jours ses doutes quant à la possibilité, en temps d'épidémie, d'organiser des élections totalement sécurisées, alors que le vote électronique va se généraliser. Le problème, c'est que Donald Trump n'a pas le pouvoir de décider. Et on mesure aussi tout ce qu'il peut y avoir derrière cette question. L'Amérique, qui est en train de vivre sa plus grave crise depuis 1929, et des sondages sur la gestion très calamiteuse de la maison, par la Maison Blanche de l'épidémie. Tout cela ne met pas Donald Trump en position favorable pour le scrutin du mois de novembre prochain, Benoît Clair.
Oui, François, sur fond de crise économique majeure et d'un bilan catastrophique de la gestion de la Covid-19, Donald Trump lance un ballon d'essai en évoquant, certes avec un point d'interrogation, le report de la présidentielle américaine prévu le 3 novembre prochain. Mais cette annonce va sans doute faire du bruit dans les heures qui viennent. Distancé de plus de 10 points dans pratiquement tous les sondages par son challenger, le démocrate Joe Biden, le locataire de la Maison-Blanche ne sait vraiment plus quoi faire pour tenter d'inverser la tendance, surtout dans les états clés qu'il avait remporté en 2016 et dans lesquels ses équipes investissent depuis plusieurs semaines maintenant des sommes colossales en publicité. Craignant que le vote par correspondance puisse être une source de fraude, le président cherche des solutions pour retarder les échéances judiciaires qui l'attendent s'il était battu. Mais la décision finale ne lui appartient pas, ce sont les parlementaires américains qui décident et la date de l'inauguration est gravée dans le marbre. C'est le 20 janvier prochain que sera installé le 46e président américain.
Benoît Clair aux États-Unis pour Europe 1, et pour illustrer le propos de Benoît Clair, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, on a appris aujourd'hui la chute spectaculaire du produit intérieur brut américain de 32,9%. L'Amérique est donc en récession, François.
Et le produit intérieur brut en Allemagne chute également très lourdement. C'est la plus lourde chute depuis 1970, une baisse de 10,1% au deuxième trimestre.
C'est aussi l'information du jour, il fait chaud, et même très chaud.
Ça ne va pas durer forcément, puisqu'une vague orageuse qui ira rafraîchira l'air est annoncé, mais en attendant le thermomètre frise. On a entendu Valérie Darmon, les 40 degrés dans le sud-ouest du pays, mais aussi en région Rhône-Alpes et notamment à Lyon, où vous vous trouvez pour Europe 1, Johanna Chabas. Lyon, où tout est bon pour tenter de trouver un peu de fraîcheur.
Oui, certains vont même jusqu'à braver des interdictions. Je suis sur une petite plage du bord du Rhône. Normalement, les Lyonnais n'ont pas le droit de se baigner car c'est dangereux. Mais une vingtaine de personnes sont dans l'eau. Certains n'y mettent que les pieds, d'autres font carrément des longueurs. Pour Jennifer, c'était nécessaire.
J'ai été me tremper les pieds. Et voilà, une petite trempette, ça fait pas de mal, je pense. Ça fait du bien d'être un peu à la plage, en plein milieu de la ville. Et puis, il fait vraiment très chaud. Donc, soit on reste enfermé chez soi, mais sans la clim, c'est compliqué.
Ou alors on essaie de trouver des terrasses ou encore mieux des points d'eau.
Alors tout le monde m'assure faire très attention au courant mais aussi aux autres. En pleine crise du coronavirus, les Lyonnais essayent de garder les distances de sécurité. Mais personne ne porte de masque à l'heure où le ministre de la Santé recommande son utilisation même à l'extérieur. C'est difficile pour Clarisse.
C'est vrai que c'est très très compliqué. J'entends que voilà, il faut vraiment qu'on le fasse, mais c'est chaud. Trop tôt aujourd'hui, c'était un pic où il fait vraiment extrêmement chaud. Aujourd'hui et demain, on essaie de faire attention, mais bon, c'est pas facile, sincèrement.
Elle promet qu'elle portera le masque tout le temps si on l'y oblige. En attendant, elle profite de la plage avant de pouvoir vraiment partir en vacances en août.
Merci Johanna Chabas, sur les bords du Rhône, à Lyon, pour Europe 1.
Deux jours après le terrible accident de la Nationale 2 qui a causé la mort de quatre enfants, le chauffeur du poids lourd vient d'être mis en examen pour homicide involontaire ce soir.
Et même, Thierry, pour un délit de fuite commis visiblement quelques dizaines de minutes auparavant, un peu plus au sud, à Soissons. En cette période de grande transhumance sur les routes, les contrôles de camions se renforcent. C'est très clairement le message qu'ont voulu faire passer ce matin les CRS sur l'autoroute A3 au nord de Paris, une autoroute où circulent quotidiennement 16 000 poids lourds. Reportage Hélène Terzian.
Le monsieur, voilà, il y a plein de choses. Les contrôles techniques, l'extincteur, le pneu qui est lisse.
Ce poids lourd vient d'être passé au crible comme les deux autres, immobilisés sur la bande d'arrêt d'urgence. Le cumul des infractions constatées par le CRS Sébastien représente un risque pour le chauffeur et les autres conducteurs.
C'est plein de petites choses qui font que, mis bout à bout, en fait, s'il a besoin de faire, par exemple, un freinage d'urgence parce qu'il y a une voiture qui tombe en panne devant lui ou il y a un accident devant lui, peut-être que ses organes de sécurité ne fonctionnent pas bien. Le monsieur, on lui a dit, tout ça, c'est des verbalisations.
Quand on a tort, on a tort. Nous, notre travail, c'est de conduire. Après, il y a des règles à suivre pour éviter les accidents.
Le récent accident dans l'Aisne impliquant un poids lourd et qui a coûté la vie à quatre enfants a profondément marqué les chauffeurs routiers. Il rappelle aussi la nécessité de multiplier les contrôles, insiste Jean-Paul Vernet, commandant de la CRS autoroutière Nord-Île-de-France.
Faire respecter les distances de sécurité, la vitesse, les temps de conduite, les temps de repos au niveau des poids lourds, d'arriver à avoir des équipements qui soient corrects, ça, tout ça, ça fait baisser l'accidentalité. Sortir de la circulation de ce type de véhicule, on va gagner en débit.
Des contrôles encore plus stricts alors que débute demain le grand chassé-croisé entre juilletistes et aoussiens. Sur la 3, Hélène Terzian, Europe 1.
Quand un garde des Sceaux rend hommage à l'un de ses prédécesseurs, Éric Dupond-Moretti, salue la mémoire d'Albin Chalandon qui vient de s'éteindre.
Alors qu'il venait tout juste de célébrer ses 100 ans, l'actuel garde des Sceaux rend hommage, je cite, à un grand serviteur de la République. Oui, un serviteur qui en servit deux, même la quatrième et la cinquième, et qui fut une figure importante de la droite des années de Gaulle aux années RPR, Jean-Gabriel Bourgeois.
Oui, Albin Chalandon a mené une brillante carrière politique dans les pas du général de Gaulle. Il est d'ailleurs l'un des principaux dirigeants du parti gaulliste avant d'être élu député et d'entrer au gouvernement. Ministre de l'Équipement et du Logement en 1968, il lance notamment un programme de construction de pavillons individuels, des maisons en kit, bon marché, mais ces chalandonnettes se délabrent rapidement. Sur les 65 000 pavillon construit, Albin Chalandon tente de minimiser le fiasco. C'était en 1977 au Club de la Presse sur Europe 1.
Environ 4000 ou 4500 ont des ennuis graves. C'est déjà beaucoup, c'est beaucoup trop. Mais enfin, il y a tous les autres et on ne va jamais les interroger. Et je me rappelle, pour avoir inauguré certains de ces villages, à quel point les gens étaient heureux. Alors j'aimerais bien que l'on présente les choses avec plus d'objectivité.
En 1977, Albin Chalandon est alors patron d'Elf Aquitaine jusqu'en 1983. Il revient ensuite en politique en 1986 en tant que ministre de la Justice où il se fait l'artisan d'une politique sécuritaire. Combattant de la libération, dirigeant d'entreprise, baron du gaullisme, Albin Chalandon était aussi le mentor de Rachida Dati qui se dit aujourd'hui inconsolable. C'était plus qu'un ami, explique-t-elle, quelqu'un qui vous sauve la vie, ne vous lâche jamais la main.
Merci Jean-Gabriel Bourgeois et évidemment Thierry, une pensée forcément bien émue sûr et très sincère pour celle qui l'a accompagné pendant tant d'années, notre amie, notre consoeur, la grande voix d'Europe 1, Catherine Ney, à qui toute notre maison Europe 1 adresse ses condoléances.
Il est 18h09. Europe 1, votre grand journal du soir sur Europe 1, François-Claude-Thierry Dagirel.
À suivre, Renault qui plonge de plus de 7 milliards d'euros et puis le championnat de basket américain au pays de Mickey qui reprend ce soir. Nous en parlons dans un instant sur Europe 1, à tout de suite.
La suite du journal sur Europe 1, François-Claude-Thierry Dagirel.
Et c'est la perte la plus lourde de son histoire. Renault a publié ce matin ses comptes, un trou abyssal de 7 milliards 300 millions.
Renault qui avait déjà annoncé fin mai 15 000 suppressions d'emplois dans le monde, dont 4 600 en France, est victime, comme la plupart des grands groupes mondiaux, de la pandémie. Mais pas seulement, Emmanuel Dutheil.
Oui, hein, ça semble aujourd'hui très loin, le temps où Renault-Nissan était le premier constructeur mondial. On était pourtant seulement en 2017-2018. Mais depuis, tout s'est effondré. Nissan a vu ses ventes fortement reculer, notamment aux États-Unis, un de ses principaux marchés. Le groupe, hein, qui jusque-là apportait chaque année une forte contribution financière à Renault, affiche maintenant des pertes financières colossales. Renault peine aussi, avec des véhicules moins dans l'air du temps. Et puis surtout, ce qui devait faire la force du groupe, cette alliance qui devait faire baisser les coûts, a quasiment volé en éclats après l'éviction de Carlos Ghosn. C'est dans ce contexte que le coronavirus est venu alourdir fortement la facture. Usines et concessions sont restées fermées pendant des semaines, d'où cette perte historique. La direction de Renault le reconnaît, ses résultats sont très mauvais. La situation est sans précédent, mais pas sans appel, veut malgré tout croire le tout nouveau patron de Renault.
Merci Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Le téléphone le plus vendu dans le monde est désormais Made in China. En vendant plus de 55 millions de téléphones, Huawei détrône le géant coréen Samsung, jusque-là leader sur le marché, qui n'en avait vendu que 53 millions cette année.
Il est donc désormais dans sa villégiature varoise. Le président Macron entame 3 semaines de vacances au fort de Brégançon.
Oui, ce lieu qu'il a toujours dit apprécier grandement, qu'il a aussi dépoussiéré avec son épouse, et où, souvenez-vous, il y a un an, il recevait le président russe Poutine. Et il est arrivé, Frédéric Michel, non seulement sous le soleil, mais sous une grosse chaleur.
Oui, mais la situation de Brégançon est idéale pour se rafraîchir. Le fort surplombe la Méditerranée. Juste en face, il y a l'île du Levant. On distingue aussi l'île de Porquerolles. Autant de noms qui sentent bon les vacances. Des vacances qui auraient commencé hier soir. Le président serait arrivé dans la nuit. Ses deux copines marseillaises le découvrent.
Ah non, il arrive quand? Mais il est arrivé. Il est arrivé? Ah très bien. Il a besoin de vacances comme tout le monde.
Alors les vacances présidentielles commencent, vous l'avez dit, sous le soleil. Le thermomètre affiche 34 degrés et l'eau
très bonne, pour 24. Il peut venir, il peut sortir de sa piscine et venir là. Ouais. Il n'y a pas de problème. Pour moi, on a un président qui apprécie le coin, quoi.
Alors l'Élysée précise que les vacances du président seront studieuses, peu de sorties et du travail tous les jours. Le président pourrait cependant participer à la mi-août aux cérémonies commémorant la libération de Bormes-les-Mimosas. L'occasion peut-être, comme chaque année, d'un bain de foule avec la population qui est toujours très heureuse de le voir ici. Le chef de l'État pourra aussi réunir cet été ses principaux ministres, plusieurs conseils de défense sanitaire en visioconférence. Emmanuel Macron nous dit l'Élysée continue évidemment de suivre les dossiers nationaux et internationaux. Voilà, ici à Brégançon en tout cas, on sait que le président est arrivé car le drapeau tricolore flotte sur le fort.
Merci Frédéric Michel, on a en direct, on l'a compris.
Des vacances studieuses.
Oui, studieuses, près de cette belle plage de Bormes-les-Mimosas. Oui.
Les dossiers qui attendent justement le président, on va en parler avec les grandes voix dès 18h30. C'est peut-être le plus grand spectacle sportif du monde et il reprend ce soir, François.
Et oui, le show de la NBA, le championnat américain de basket, qui va se dérouler dans des conditions absolument exceptionnelles, Covid oblige. Imaginez 88 matchs en 2 semaines, tous sous une bulle, à Disney World, Orlando, Floride, où l'art des Américains de savoir, malgré tout, transformer une situation de crise en grand spectacle, Cyril de la Morinerie.
Oui, c'est peut-être la magie Disney ou le miracle de la fée. Clochette en pleine pandémie, la NBA arrêtée le 11 mars dernier suite au test positif au Covid-19 du français Rudy Gobert reprend sous cloche. Ils sont 1500 joueurs, entraîneurs, journalistes à pouvoir contempler chaque jour le fabuleux château en carton plâtre de Cendrillon. Mais attention, personne n'a le droit de sortir du parc. Les joueurs testés quotidiennement arrivent en survêtements et reviennent à l'hôtel pour se doucher. Tout entrave au règlement et c'est l'isolement pendant 10 jours ainsi qu'une amende. Les matchs vont évidemment se dérouler à huis clos. Pas simple pour les équipes de jouer dans ces conditions. Pour le consultant historique de la NBA sur Canal+, George Eddy, le vainqueur aura tout d'un grand champion.
L'équipe qui va remporter le titre de champion aura été héroïque. Et la NBA est héroïque également en organisant une bulle sanitaire qui tient le coup pour le moment. Et celui qui s'en sort à la fin mériterait d'être appelé un vrai champion.
Voilà, le vainqueur de cette NBA sera désigné au plus tard mi-octobre. Les Los Angeles Lakers, emmenés par LeBron James, tenteront de s'imposer en mémoire du regretté Kobe Bryant. Compétition qui sera également l'occasion pour de nombreux joueurs d'apporter leur soutien au mouvement Black Lives Matter suite au décès de George Floyd.
Merci Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1.
Et c'était le journal de François Claus. François, on se retrouve à 18h30 pour le rappel des titres. La météo à présent. Valérie Darmon, quelle chaleur, quelle chaleur.
Eh oui, encore plus demain qu'aujourd'hui. Hein. Ah oui. C'est simple, aujourd'hui, les températures inférieures à 30 degrés n'ont concerné que la Basse-Bretagne, le Cotentin, le Hauts-de-France et les Ardennes, le littoral du Golfe du Lion et le Cap Corse. Il a fait souvent plus de 34 sur la moitié sud de la France, jusqu'entre 38 et 40 localement sur les régions du sud-ouest et l'arrière-pays méditerranéen. La nuit prochaine, elle sera chaude, voire encore plus chaude que la nuit dernière, avec près de 24 degrés en région lyonnaise. Même chose d'ailleurs pour la nuit de vendredi à samedi. Donc c'est demain vendredi que les températures vont atteindre leur apogée sur les 13 départements placés en vigilance orange dans l'Est. Samedi et dimanche, la chaleur va devenir progressivement moins intense par l'Ouest et le Nord-Ouest. Elles vont déjà baisser demain d'ailleurs sur le Sud-Ouest. Mais les températures devraient rester tout de même très élevées dans la journée de samedi avant un rafraîchissement plus sensible dès dimanche.
Merci Valérie. La météo des plages, 18h30.
Et votre grand journal du soir revient sur Europe 1 avec vous, Thierry Lagiral, et votre invité.
Il vient de retrouver ses fonctions, fonctions importantes, hein, alors que le tourisme est touché de plein fouet par cette pandémie. Quelles vont être les prochaines actions pour aider les professionnels du tourisme? Est-ce suffisant? Et puis les premières tendances de ce mois de juillet. Le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne me rejoint dans deux minutes, ici en studio. À tout de suite.
Sur Europe 1, la suite de votre grand journal du soir avec vous, Thierry Lagiral, et votre invité. Vous recevez aujourd'hui le secrétaire d'État en charge du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne.
Bonsoir Jean-Baptiste Lemoyne.
Bonsoir.
On le voit, hein, en Europe, plusieurs pays durcissent les mesures sanitaires, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique. Vous pourriez prendre des mesures, vous, pour éviter, voire interdire les déplacements dans certains pays, je pense notamment à la Catalogne.
Alors, le Premier ministre l'a dit, hein, il décommande effectivement les déplacements vers cette région d'Espagne. Ce qui est sûr, c'est que, par exemple, à partir du 1er août, on a demandé à des voyageurs, à des Français qui reviennent d'une liste de 16 pays où le virus circule de façon plus active, eh bien, des tests pour s'assurer qu'ils sont qu'ils sont pas positifs. C'est important de prendre toutes les précautions parce qu'on ne joue pas avec la santé des Français. Et je vois d'ailleurs beaucoup de collectivités en lien avec les préfets, en lien avec les ARS, travaillent aussi à des mesures complémentaires. Olivier Véran, hier, recommandait aux Français dans les lieux les plus fréquentés eh bien de leur propre initiative de mettre le masque. Ouais. C'est un été qui n'est pas tout à fait comme les autres. Il faut qu'on le garde en tête.
Jean-Baptiste Lemoyne, vous avez annoncé la poursuite du chômage partiel jusqu'en décembre prochain, donc pour le secteur du tourisme. Ça restera dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui?
Alors, ça reste dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui jusqu'au mois de septembre. Et nous sommes en train de travailler avec Elisabeth Borne sur les modalités à venir. Ce qui est sûr, il y a une certitude. Le président de la République a été très clair le 30 avril quand il a rencontré le secteur. C'est qu'il y a besoin de soutenir l'industrie du tourisme dans la durée. Parce que pour certains, ça va être peut-être une année blanche. Il faudra tenir jusqu'en mars 2021.
Donc, dans la durée, on sera justement, au rendez-vous. Vous dites justement dans la durée, ils sont nombreux, je pense notamment au groupement national des chaînes hôtelières, à dire c'est bien, ça ne va pas assez loin. Il faudrait aller au moins jusqu'en avril 2021, parce que c'est là où justement on va sentir le problème. Quoi. Le problème, c'est sur plusieurs mois.
Je vais vous dire, dans cette crise, depuis le début, je crois que le gouvernement a fait preuve, un, de réactivité, deux, on n'a pas lésiné sur les moyens. Je veux rappeler, par exemple, que pour le secteur du tourisme, 9 milliards de prêts garantis par l'État ont été délivrés pour pas loin de 100 000 entreprises. Et par exemple, on parlait du chômage partiel. C'est plus de 1,2 million de salariés du secteur du tourisme qui en ont bénéficié pour 180 000 entreprises du secteur. Donc vous voyez, on est là quand il y a besoin et on va continuer à être là. Très clairement, on voit il y a des territoires qui sont particulièrement impactés. Pareil, l'Île-de-France, l'événementiel est par partie.
On va en parler dans un instant, justement. Cette mesure rallongée, justement, sur le chômage partiel, c'est bien, bien évidemment, pour les salariés. Mais les patrons de ces hôtels, qu'est-ce que vous faites pour eux? Il y a les contraintes, les loyers commerciaux à payer, les emprunts à rembourser. Qu'est-ce que vous faites pour eux?
Alors, il y a ce fameux prêt garanti par l'État. Alors, vous allez me dire, c'est de la dette. Mais on met aussi en place des prêts spécifiques, ce qu'on appelle le PGE saison pour les entreprises saisonnières, et également le prêt tourisme avec BPI France qui va permettre d'avoir un différé de remboursement jusqu'à 3 ans et une maturité de remboursement jusqu'à 12 ans pour les aider à enjamber les 2-3 prochaines saisons avant de déclencher des remboursements. Donc vous voyez, on a créé des outils ad hoc qui n'existaient pas parce qu'on est dans une situation exceptionnelle et on se doit encore une fois d'être à leur côté. Le tourisme, c'est bien simple, c'est beaucoup plus que les 8 ou 10% que ça représente d'ailleurs dans le PIB parce que ça a un impact important en amont. Des dizaines ou des centaines de restaurants qui ferment, c'est un impact pour nos agriculteurs, les débouchés, et en aval, parce que les services de transport, parce que les guides conférenciers, je veux leur dire que pour eux, effectivement, le combat continue pour trouver des modalités, parce que certains ont très peu de revenus. Ouais. Donc voilà, on est vraiment mobilisés au sein du comité de filière tourisme, et je salue aussi les professionnels, parce que sont des courageux.
Jean-Baptiste Lemoine, est-ce qu'il y a une ligne cohérente? Est-ce qu'il n'y a pas des décisions finalement qui sont prises au coup par coup? On interdit par exemple il y a quelques jours les chauffages des terrasses et en même temps on prolonge les aides. Donc d'un côté on va retirer du monde sur les terrasses et de l'autre on écope avec de l'argent. C'est pas totalement cohérent parfois.
Alors je vais vous dire, là où je vois de la cohérence, c'est que on travaille un plan de relance avec Bruno Le Maire qui sera dévoilé donc à la fin du mois d'août. L'idée c'est que pour relancer l'économie française, il faut aussi en profiter pour la verdir, pour faire en sorte qu'on rentre dans un cercle vertueux. Et je veux dire, lors du comité de filière, d'ailleurs, des représentants des fédérations de l'hôtellerie...
Attendez, c'est des clients qui vont partir.
Moi, je vais vous dire, les représentants, ils m'ont dit, c'est vrai que ça va dans le sens de l'histoire. Mmh. Maintenant, on a besoin d'un peu de temps. Donc, avec Alain Griset, qui est secrétaire d'État, ministre délégué au PME, on y travaille, parce que l'idée, ce n'est pas d'imposer ça tout de suite, c'est de faire ça courant 2021. Et puis aussi, c'est de mettre en place, avec ce plan de relance, des aides pour aider à verdir. C'est ça, l'idée, c'est que si on met de l'argent, profitons-en pour qu'on soit aussi plus vertueux.
Un mot de l'événementiel, vous en parliez tout à l'heure, les salons, les foires vont pouvoir reprendre au 1er septembre avec des jauges bien précises.
Alors, à partir du 1er septembre, pour l'événementiel, justement, la notion de jauge disparaît. On a là affaire à des professionnels de la régulation des flux. Ouais. Et donc, moi, j'ai confiance. On a beaucoup travaillé avec Unimev, leur fédération. Et c'est très important parce que là aussi, Paris, la France, on est, sur le podium en matière d'attractivité sur les foires, les salons.
Avec le mois de septembre-octobre.
Exactement. Et donc, on se doit, là aussi, de reprendre, de ne pas se laisser chipper la place par des États voisins.
Mais il y aura une traçabilité, par exemple, des visiteurs. Comment ça va se passer concrètement?
Alors, il y a aussi... Le secteur est en train de se repenser. Ouais. De plus en plus aussi avec des solutions hybrides, ce qu'on appelle le figital, c'est-à-dire une partie physique, une partie digitale. Et vous voyez que finalement, de toute crise aussi, ressortent des innovations. Et je crois que la France, qui est rentrée première sur le podium en matière de tourisme dans la crise, elle doit aussi en sortir première et donc avoir un coup d'avance, toujours innover. Très clairement, on doit avoir un tourisme qui se réinvente et on est là pour le faire avec les pros.
Jean-Baptiste Lemoine, on arrive fin juillet. Est-ce qu'on peut dresser déjà un premier bilan de ce premier mois d'été important? Combien de réservations en France? C'était des vacances made in France?
Ouais. Alors effectivement, j'avais lancé cet appel un peu un été bleu-blanc-rouge et je me réjouis que d'après le baromètre qu'Atout France a fait avec l'Office de tourisme de Paris, 7 Français sur 10 ont fait le choix de rester en France.
70% alors des Français en France, d'accord.
Les années précédentes, on voyait que les Français de plus en plus repartaient à l'étranger sur le bassin méditerranéen. Et bien là, ils font le choix de redécouvrir la France. Il y a tellement, c'est vrai, de variétés de paysages. Je peux vous dire, on peut faire le tour du monde en faisant le tour de France. Donc c'est formidable. Et les régions qui tirent leur épingle du jeu, la région sud, la Bretagne, la Normandie, Nouvelle-Aquitaine. Enfin, finalement, on voit une meilleure répartition des flux sur l'ensemble du territoire.
On dit que la Côte d'Azur, la région parisienne, ont pâti du manque de tourisme étranger, que c'est un peu la catastrophe pour ces régions.
Alors, je serai demain dans le Var, justement, à la rencontre des acteurs du tourisme. Et ce que l'on observe, c'est une clientèle française qui est très présente. Et par exemple, dans le Var, plus 20% de touristes français. Ouais. Mais c'est vrai que, par exemple, les Alpes-Maritimes, le Vaucluse, effectivement, pâtissent de l'absence des clientèles internationales. Donc, on voit bien que les situations sont contrastées selon les territoires. Et à l'inverse, des territoires plus ruraux, comme le Jura, comme l'Aveyron, tirent aussi très bien leur épingle du jeu et voient de nouvelles clientèles arriver.
On entend ici ou là que les prix ont augmenté parce que la demande est là. Donc, les hôtels doivent faire face à cette demande et en profitent parfois. Il y a eu des contrôles, il y a eu des excès.
Alors, il y a eu à un moment des alertes là-dessus, mais globalement, je crois que ce sont des exceptions et chacun a pu trouver chaussure à son pied. Nous, on a veillé, gouvernement et région, on a mis en place justement un dispositif de chèque vacances. Et par exemple, demain, je serai en région sud, c'est 13 millions d'euros qui vont profiter à 26 000 foyers des chèques vacances de 500 euros pour aider les gens justement à partir, à pouvoir louer un emplacement, partir en famille.
C'était pas ma question.
Mais la question, c'est une aide au pouvoir d'achat.
Oui.
Parce que vous faites allusion
au coût. Est-ce que vous avez repéré des hôtels qui allaient un peu trop loin?
Écoutez,
qui profitaient de cette demande.
Il y a peut-être eu quelques situations, mais c'est pas la norme. Et au contraire, ce que l'on voit, c'est plutôt justement parfois des guerres des prix. Les hôteliers m'ont fait part justement d'une baisse du prix moyen des chambres, ce qui était aussi un sujet de préoccupation parce qu'il faut quand même que l'industrie reparte.
Le secrétaire d'État au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne ce soir sur Europe 1. Grand merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci. Europe 1. À suivre dans votre grand journal du soir, Thierry Dagirel.
Le rappel des titres et la météo des plages, puis les grandes voix ce soir, Virginie Leguet de Paris Match et Gilles Clavrel du think tank L'Aurore. On va parler de la rentrée difficile d'Emmanuel Macron et des dossiers chauds qui attendent le président et de la rentrée difficile peut-être aussi pour l'école. Vos questions, vos réactions, 39-21. À tout de suite.
Sur Europe 1, votre grand journal du soir, Thierry Dagirel.
Avec le rappel des titres de l'actualité, François Claus.
Par un simple tweet au réveil, le président américain ouvre la porte ce matin à un grand débat pour le report éventuel des élections présidentielles de novembre prochain. Les garanties de sécurité du vote électronique à distance, qui s'annonce prépondérant en ces temps d'épidémie, ne seraient pas suffisantes. L'Amérique, qui confirme qu'elle est en train de vivre sa plus grave récession depuis 1929, subit une chute spectaculaire, 32,9% de son PIB au deuxième trimestre consécutif de baisse. Ça veut dire tout simplement que les États-Unis sont en récession. C'est sous cette très forte chaleur, plus de 30 degrés, que le président Macron a rejoint son lieu de villégiature, le fort de Brégançon, où il passera 3 semaines de vacances en famille. Vacances qualifiées de studieuses. La vague de chaleur, elle, du sud de la France, remonte doucement la vallée du Rhône jusqu'en Bourgogne, où des températures de plus de 40 degrés sont annoncées pour demain. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, devra s'expliquer devant la justice suisse, qui annonce qu'une enquête est ouverte, soupçonnant une collusion entre Infantino et l'ancien procureur suisse qui enquêtait sur les faits de corruption au sein du football mondial et qui avait lui-même démissionné après ces révélations. Les bourses, elles plongent ce soir. Paris, moins 2,13% à 4852 points.
Merci François. Prochaine édition complète sur Europe 1, 19h. La météo des plages, Valérie Darmon. Allez, on commence par l'ouest.
Oui, on commence par l'ouest qui va s'ennuager demain puisque le temps va virer à l'orage le long de la Manche et en mer du Nord depuis Boulogne-sur-Mer jusque Deauville sous des températures aux alentours toujours de 33 degrés, 24 à Cherbourg, 31 à Saint-Malo, 23 à Pérouse-Guirec. Ces températures qui baissent, l'eau qui est toujours aussi calme, qui gagne quelques degrés entre 19 et 20 degrés. Nuages également sur la côte d'Azur, en tout cas du côté du golfe du Lion depuis le Canet jusqu'au Cap d'Agde, tandis qu'il continue de faire très très beau depuis Marseille jusqu'à Nice, avec des valeurs toujours aux alentours de 33-34 degrés, une eau entre 22 et 26 degrés, une mer extrêmement calme. Et puis toujours aussi quelques nuages, hein. Les températures baissent sur la façade atlantique à partir de demain matin de toute façon, donc température de 25 degrés et quelques nuages dans le ciel de Biarritz, 26 à Lacanau, sur le bassin d'Arcachon, au Cap Ferret, davantage de soleil sur la partie nord de l'Atlantique, qui est toujours aussi calme, aussi beau, avec des valeurs entre 17 et 24 degrés.
Merci beaucoup Valérie Darmon, à tout à l'heure.
Europe 1. Et dans votre grand journal du soir sur Europe 1, on décortique l'actu avec les grandes voix. Thierry Dagirel, vous êtes ce soir avec Virginie Leguet, chef adjointe du service politique de Paris Match, et Gilles Clavreul, délégué général du think tank L'Aurore.
Bonsoir.
Bonsoir à vous deux, merci d'être présents ce soir sur Europe 1. On va parler des vacances, non pas de Monsieur Hulot, mais d'Emmanuel Macron, des vacances studieuses au fort de Brégançon où il vient d'arriver. Avant de partir, il a pris quand même le soin de remanier son cabinet avec des départs, des arrivées, notamment à sa communication. On prépare la rentrée, Virginie Leguet.
On prépare l'élection présidentielle.
Ah, carrément.
Donc la rentrée, oui, c'est une étape.
C'est une étape, mais qu'une
on voit bien
étape.
Que tout est mis en place depuis le remaniement.
Ouais.
Un gouvernement de gens expérimentés qui n'ont pas le droit à l'erreur, ce qui tranche avec le premier gouvernement. D'ailleurs, les grands marcheurs historiques du premier gouvernement, enfin du gouvernement précédent, sont partis. Mmh. Une allocution extrêmement ciselée le 14 juillet, une expression directe aux députés et aux parlementaires. Ouais. Il s'agit de remobiliser la majorité. Il s'agit de
chaque jour compte, a-t-il dit hier.
600 jours utiles, hein, nous n'avons pas de temps à perdre, a-t-il dit entre guillemets. Et là, il remanie son cabinet, il voit là où ça a péché pour faire en sorte que la machine de guerre qu'il veut mettre en place à partir de maintenant soit efficace et que dans 2 ans, parce que c'est dans 2 ans, il puisse avoir vraiment un bilan à présenter.
Gilles Clavreul, il faut aller vite, taper fort.
Ben c'est, oui, et avant ça, c'est assez impressionnant, si on dézoome un tout petit peu, la façon dont Emmanuel Macron, parti d'une gestion de crise qui, au départ, était quand même assez, assez difficile, en tout cas avec des remises en cause assez fortes, avec un déconfinement qui, lui, s'est plutôt bien passé, avait promis de se réinventer. Alors, je ne sais pas s'il s'est réinventé lui, mais il a réinventé son gouvernement et il a réussi une sortie de crise à nouveau, en fait, comme avec les Gilets jaunes, après avoir été dans une passe extrêmement difficile. Une sortie de crise qui est quand même assez brillante. Là, il arrive, pour la première fois depuis le début de son quinquennat, à récupérer 50% d'opinion positive. Oui, alors, bien sûr, ça exactement. N'est jamais qu'un indicateur ponctuel. La question qui va se poser, évidemment, c'est est-ce que c'est durable et est-ce que c'est annonciateur d'une, effectivement, d'une pré-présidentielle pour lui qui sera favorable et tel qu'il a envie de la jalonner, ou bien est-ce que c'est le calme avant la tempête ? Ça, on ne sait pas encore.
Ouais. Virginie Le Guay, justement, c'est ça. Et est-ce que ce plan de relance ne va pas faire disparaître tout le reste ? C'est-à-dire qu'il y avait le nouveau chemin qu'il veut incarner, le président, pour aller justement jusqu'à la présidentielle. Et puis, il va falloir écoper à la rentrée aussi avec les plans sociaux, avec les plans de relance, avec l'économie qui ne va pas formidablement bien. Ça va être compliqué quand même.
Les obstacles sont très nombreux,
c'est ça.
Les haies sont très hautes à franchir, le programme est intense, les Français l'ont d'ailleurs compris, et Emmanuel Macron ne pourra pas arriver en 2022 avec une France dont le chômage aura explosé, dont les entreprises auront fermé par dizaines voire par centaines. Donc là, le défi à relever est immense. Pour autant, si l'on regarde un peu le spectre politique, il a quand même un alignement de planètes assez inédit en ce moment. Pour la première fois de l'histoire de la Ve République, son socle, enfin, il est très rare qu'un président de la République ait un socle électoral qui ait changé à ce point-là. Il a été élu par majoritairement des voix de gauche. Aujourd'hui, il est majoritairement soutenu par des voix de droite. Et à droite, il n'y a quand même personne. Je sais que certains, à l'intérieur des Républicains, attendent François Baroin comme le Messie, mais François Baroin d'abord se fait désirer. En plus, on ne sait pas vraiment s'il a envie d'y aller. Et quand on regarde les sondages sont assez faibles. Je crois qu'ils oscillent entre 12 et 14 selon la personnalité qui pourrait se présenter. À gauche, n'en parlons pas, c'est le désert. Et on imagine mal à la présidentielle une candidature unie comme on a eu au municipal. Il y a tellement de divisions entre les différentes forces de gauche que même si c'est une candidature derrière un candidat écologiste, je ne suis pas sûre qu'on arrivera à faire l'unité. Donc il a quand même devant lui un grand espace politique. Et ce que je veux dire, et j'en termine, que même s'il a beaucoup de mal, et encore on voit bien que les signes de reprise sont parfois meilleurs que ce qu'on imagine, mais même s'il a beaucoup de mal à remettre la France sur les rails, malgré tout, il peut être rassuré par le vide.
Mais quitte Gilles Clavreul,
autres forces politiques.
Gilles Clavreul, quitte à se détourner finalement de ses ambitions du début de quinquennat, on est passé quand même dans un autre rythme, dans une deuxième partie de quinquennat, on est loin des promesses du début de quinquennat.
D'une certaine façon, on est presque à l'opposé.
On n'est plus dans le même temps,
c'est ça.
De la geste macronienne initiale, ce qui est, bon, pour partie, une prise en compte du réel de la part du président. Je pense en particulier à des sujets qu'il n'avait pas évacués, mais en tout cas pas vraiment mis en avant. La sécurité, l'autorité républicaine, les territoires en difficulté. Tous ces sujets-là n'étaient pas tellement dans la première.
Et parlons pas de l'écologie.
Sans parler de l'écologie. Donc, c'était pas dans le cœur du projet que portait Emmanuel Macron. Et puis, il y avait ce thème de la disruption, du nouveau monde. On allait vers des changements très, très radicaux. On n'est plus tellement dans cette approche-là. Au contraire dans
On a changé de logiciel.
Dans une gestion politique très classique et qui est certainement appropriée maintenant parce que les Français ont besoin d'être rassurés, d'être réancrés, de trouver un certain nombre de bases et de repères. Ça, Jean Castex le fait très bien. Simplement, Jean Castex, ce n'est pas lui qui ira à la présidentielle. Enfin, pas que je sache, pour le moment, beaucoup de choses peuvent arriver. Mais ce sera Emmanuel Macron. Donc, il faudra qu'il incarne ça, d'une part. Et puis, d'autre part, c'est dans 20 mois, il peut se passer beaucoup de choses ici.
Allez, on continue à en parler dans un instant. Vous nous appelez 3921. On va vous écouter dans un instant. À tout de suite.
Europe 1. 18h41 et le débat des grandes voix se poursuit dans votre grand journal du soir sur Europe 1. À vos côtés, Thierry Dagiral, Gilles Clavreul, délégué général du think tank L'Aurore, Virginie Le Guay, chef adjointe du service politique de Paris Match, et vos réactions au 39-21.
Et on parle des vacances studieuses d'Emmanuel Macron. Bonsoir Claude.
Bonsoir.
Vous nous avez appelé au 39-21, vous nous appelez de La Rochelle. On vous écoute Claude.
Ah oui. Eh bien écoutez,
Je voulais savoir, est-ce que vous pensez, avec cette crise sanitaire qui se poursuit quand même, avec la crise économique qui va s'aggraver, et avec d'autres problématiques, hein, telles que le régalien ou l'écologie, que le président Macron va pouvoir continuer d'appliquer son programme ou est-ce qu'il va devoir revoir un peu ses plans quand même?
Virginie Le Guay, justement, merci. Merci à vous, Claude, de nous avoir contactés. Merci beaucoup. Virginie vous répond.
Il y a une loi qui... Enfin, une réforme, pardon, qui pose problème, c'est la réforme des retraites. Il a été dit un temps qu'elle serait abandonnée. Après, certains ont dit qu'on pourrait la reprendre. Jean Castex s'est montré très prudent en disant que ce qui pourrait être pris n'aurait peut-être pas grand-chose avec l'ensemble de la loi et qu'on reprendrait certains points. En tout cas, c'est une question compliquée parce que l'ensemble des syndicats a déjà manifesté son hostilité et les Français sont plutôt inquiets par bien d'autres choses que par leur retraite.
Exactement.
Et il serait peut-être sage de repousser ce projet à 2022, si tant est qu'il est réélu, et de se consacrer, j'allais dire, à l'immédiat, à l'urgence, et qui est quand même l'inquiétude de tous les Français.
Gilles Clavreul, c'est intéressant ce que dit Stanislas Guérini, le patron de La République En Marche. Hein. Il faut incarner la transformation dès septembre. Ce n'est pas trois mois avant la présidentielle de 2022 qu'on pourra le faire. Donc il y a à la fois en effet incarné quelque chose et puis écoper les suites de ce Covid à la rentrée. Ça va être compliqué de jouer sur les deux.
Forcément, mais gouverner, c'est gérer des contradictions comme ça. Simplement, à force de parler de transformation, ce n'est plus tellement ce que ça veut dire. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment ce dont les Français sont demandeurs? Je pose la question, je n'ai pas de réponse évidente. Là, on va avoir d'autres enjeux quand même à la rentrée. On va quand même avoir un agenda social qui va être très, très lourd, avec des défaillances d'entreprises, avec encore du chômage partiel, avec des indépendants qui vont être en très, très grande difficulté. Ça va quand même être ça, l'urgence. Et ce que la première préoccupation pour le gouvernement, ça va être que le pays tienne, c'est-à-dire que la cohésion sociale soit maintenue. Et là, le président, le Premier ministre devront être très vigilants à ne pas cliver, à ne pas diviser, à rassurer les Français. C'est cet exercice qui est compliqué. Ça ne plaide donc pas pour des démarches disruptives, en tout cas.
Juste pour terminer, il y a eu une petite chose qui est passée inaperçue, c'est pas le bon mot, mais il y a eu un grand ménage, on l'a vu à l'Élysée, il y a eu un grand ménage également...
à la préfecture.
Exactement, voilà, dans les coulisses de l'État, avec une valse des préfets. Ça veut dire quoi, Virginie Le Guay, que c'est derrière ce changement de préfet, avec des têtes nouvelles, avec beaucoup de femmes, c'est aussi incarner quelque chose de nouveau sur le terrain? Parce que Emmanuel Macron dit souvent, les décisions qu'on prend à Paris ne sont pas appliquées sur le terrain. C'est aussi une casse forte sur le terrain pour pouvoir aller auprès de ces territoires.
Je pense qu'il a pu avoir l'impression que les ordres venus de Paris n'étaient pas toujours appliqués uniformément par les préfets. Mais d'une certaine façon, c'est la règle. Le préfet applique en fonction du territoire dont il est responsable et ce n'est pas le préfet d'à côté. Mais moi, je pense surtout qu'Emmanuel Macron, il veut repositionner l'appareil de l'État dans son ensemble et son appareil à lui, à l'Élysée, à sa main. Mais je rejoins ce que vient de dire Gilles Cavreux. Le temps n'est plus à faire des grandes réformes qui vont profondément bouleverser la société. Le temps est simplement de faire en sorte que la société tienne. Et Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, il a un gros problème. C'est que, quoi qu'il en pense, et même si tout à l'heure, effectivement, j'ai pu dire qu'il avait face à lui un espace politique qui lui laissait vraiment un champ large, il a quand même en face de lui un bloc d'opposition extrêmement rude qu'il a déjà eu en face de lui en 2017, qui pourrait se retrouver encore en face de lui en 2022, mais qui pourrait être beaucoup plus étoffé qu'il n'a été il y a 3 ans, parce qu'entre-temps, se sont agrégés à ce bloc des gens qui sont fort mécontents de lui, de sa morgue, de ce qu'il incarne, de la politique qu'il voulait représenter, qu'il ne représentera probablement pas. Donc il va aller sur une crête.
Un petit mot en 30 secondes, Gilles Clavel, parce que je sais que vous avez été préfet.
C'est vrai, c'est vous.
C'est pas une péché.
Sur le mouvement,
ce changement de préfet, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi appliquer en effet les réformes décidées à Paris.
Oui, il y a une volonté.
Au cœur des territoires.
Je crois lire entre les lignes une volonté en effet de dire quelque chose, de faire passer un message, même si en réalité ce qui s'est passé, c'est que pendant de très nombreux mois, à cause du confinement, il n'y a pas eu du tout de mouvements préfectoraux, donc là, ça fait un peu massif. Mmh. Et on veut donner en effet quelques signaux en promouvant des jeunes, des femmes, des personnes sûres, des personnes un peu plus diverses que c'est d'habitude. Ça. Donc oui, il y a un petit message. Bon, faut pas surinterpréter non plus, je pense.
Allez,
mais c'est encore du grand classique.
On en reste là. Je suis désolé de parler d'école, on est encore à un mois de la reprise, mais il faut en parler quand même parce que cette école, avec sans doute une rentrée particulière sous tension, cette étude Ipsos publiée hier, on nous apprend que 61% des professeurs ont le sentiment que les liens avec leurs élèves ont été renforcés par l'enseignement à distance. Il y a un chiffre intéressant, 37% des lycéens craignent d'être une génération sacrifiée. Est-ce qu'elle va laisser des traces, cette pandémie, à l'école, Virginie Leguet ?
Elle a laissé déjà des traces. Il y a des élèves qui ont quitté l'école pendant quasiment 6 mois. Alors, on a parlé des décrocheurs qui, effectivement, ne sont même pas revenus pendant le confinement, qui n'ont pas eu de cours, qui n'ont pas voulu, et qu'on n'a pas retrouvé après le confinement. Mmh. Mais il y a aussi tous les élèves...
Le ministère dit 4%, c'est ça, des élèves qui ont décroché.
Je crains que ce chiffre soit beaucoup plus élevé, parce qu'il y a tous les élèves qui ont peut-être suivi les cours qu'on leur a donnés pendant le confinement, mais qui auraient eu besoin d'un soutien beaucoup plus fort et beaucoup plus massif. Je parle des élèves un peu fragiles, des élèves un peu en difficulté, qui ne sont pas des décrocheurs, mais qui sont des élèves moyens. Ces élèves-là, ils ont besoin d'une vraie scolarité qu'ils n'ont pas eu depuis 6 mois. Donc ils vont se retrouver à la rentrée dans une situation un peu tendue. Je ne sais pas si les millions de cahiers de vacances qui ont été achetés par les parents vont servir à quelque chose. Mais il y a beaucoup d'élèves qui vont pâtir de ces 6 mois et qui vont se retrouver dans des situations scolaires compliquées en septembre. Mais et ça va être difficile de remettre tout le monde au niveau et de faire repartir l'immense machine de l'éducation
d'ailleurs,
nationale.
D'ailleurs, Gilles Claverolles, dans cette étude Ipsos, 89% des parents jugent indispensable d'évaluer le niveau des élèves à la rentrée. On reprend tout à zéro, on essaye de bien regarder les choses.
Bah déjà, on ne s'achemine pas vers une rentrée tout à fait classique, parce que la crise ne sera sans doute pas terminée. Donc, de toute façon, on sera toujours dans une certaine adaptation. Et puis, on vit un scénario qui est totalement inédit. Enfin, en tout cas, que personne d'entre nous, sauf vraiment les plus anciens, n'a connu de son vivant. Puisque une telle perturbation de l'éducation nationale, ce n'était pas arrivé depuis la guerre. Maintenant, effectivement, il va falloir être très vigilant à la situation, en particulier de certains élèves qui ont été plus exposés que d'autres et dans des situations plus difficiles que d'autres. Il faut s'occuper également des personnels, du corps enseignant, qui a été forcément déstabilisé, ce qui est tout à fait normal, et qui va à nouveau vivre une rentrée qui va être quand même assez particulière. Ouais.
Alors comment les principaux d'établissements se préparent à cette rentrée un peu particulière? On va justement parler avec Mathieu dans un instant. À tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec la suite du débat des grandes voix. Nous retrouvons autour de vous Thierry Dagiral, Virginie Leguet, chef adjointe du service politique de Paris Match, et Gilles Claverolles, délégué général du think tank L'Aurore. Et vous nous appelez aussi au 39-21.
Voilà, deuxième sujet ce soir, cette rentrée peut-être perturbée le 1er septembre prochain à l'école. On va en parler avec Mathieu. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Vous nous appelez du Morvan, vous avez 43 ans et vous êtes principal de deux collèges.
Principal adjoint.
Principal adjoint, pardonnez-moi, encore.
Voilà.
Dites-moi, comment ça se prépare, vous ? Vous avez eu des notes de Jean-Michel Blanquer, qu'est-ce qui se trame en coulisses ? Racontez-nous.
Déjà, en coulisses, on a toujours une circulaire de rentrée qui est parue le 10 juillet dernier, qui prend en compte la crise sanitaire, évidemment. Et puis, la semaine dernière, on a eu le premier protocole sanitaire. Donc, on l'a eu le 24 juillet pour la rentrée. Ouais. Un protocole qui est plutôt assoupli pour l'instant, mais bon, qui est évolutif.
Ouais, bien sûr.
Et en fait, je prépare deux situations de rentrée différentes. Une classique. Une classique, quasiment. Et puis, une autre plus contrainte, selon l'évolution du protocole. Puisqu'il faut adapter avec les pauses méridiennes sur la restauration scolaire.
Ouais,
mais dans les deux cas, puisque j'ai écouté les deux personnes qui débattent avec vous, dans les deux cas, on doit renforcer les heures d'accompagnement et les dispositifs de devoirs faits.
C'est ça, d'accord.
Aussi, il y aura une évaluation nationale de 6e, comme tous les ans. Et pour les autres niveaux, des outils de positionnement seront mis à disposition des enseignants pour justement repérer les plus grandes difficultés des élèves qu'on a perdus ou dont les difficultés se sont accrues.
D'accord, parfait. Écoutez, grand merci pour votre éclairage, Mathieu. Merci infiniment. On le comprend bien. Merci, bonne soirée. On comprend bien, Gilles Claverolles. Cette rentrée va être particulièrement compliquée. Un plan définitif qui sera communiqué, bien sûr, quelques jours avant, fin août.
Oui, bien sûr, comme toujours, mais dans des conditions différentes. J'aurais bien aimé, mais tant pis, on ne peut pas poser une question à Mathieu sur.
Est-ce que Mathieu est encore là ?
S'il est encore avec nous.
S'il est encore avec nous, on va tenter de le rejoindre.
Le climat au moment du déconfinement, on a publié dans l'Aurore un texte d'une enseignante spécialisée qui s'appelle Céline Florentino et qui a parlé justement de son déconfinement tel qu'elle l'avait vécu. Évidemment, elle relate, elle ne cache rien des difficultés, des angoisses, des doutes, etc. Mais elle a dit aussi, et comme ça ne se dit pas beaucoup, je le dis et je le redis à votre antenne, elle a dit aussi, ça a été un moment de redécouverte du métier où les échanges entre les équipes éducatives étaient extraordinairement intenses. Et elle a dit, on a pu très bien travailler sur des bases entièrement nouvelles. Je le dis parce que, dans le, évidemment, on râle beaucoup et on s'inquiète. Et c'est normal de comment ça va se passer, quelles conséquences pour les enfants. Mais je crois que c'est aussi des périodes qui peuvent permettre de réinventer un métier, de retrouver les valeurs essentielles du service public éducatif. Et là, ça, c'est très important aussi de pouvoir le dire et le reconnaître.
Mathieu, vous êtes avec nous ? Je vous ai dit, je vous ai salué trop rapidement. Gilles voulait vous poser une question. Allez-y, Gilles.
Oui, bonsoir, je voulais vous interroger sur le climat post-confinement et l'état d'esprit dans la communauté éducative que vous dirigez, dans la limite de ce que le devoir de réserve vous permet de dire, mais est-ce que vous avez senti quoi, de l'angoisse, de l'inquiétude, de l'ardeur au travail, un peu de tout ça à la fois, j'imagine?
Alors, j'ai plutôt senti au retour des élèves un peu perdus, que ce soit au niveau de spatio-temporel, et puis hébétés de la situation. Bon, ça a duré 2-3 jours et puis après ils ont été très sérieux et puis ont bien compris les gestes barrières, ont été très attentifs, les enseignants aussi étaient très volontaires, mais ça, comme vous avez dit, ça a resserré les liens entre les équipes éducatives, les parents et les élèves. Il y a une confiance renouvelée, puis il y a un respect aussi qui a été croissant.
Est-ce que vous craignez que les élèves que vous allez retrouver en septembre, enfin on l'espère pour vous et pour les élèves, certains vont être en difficulté plus peut-être qu'ils ne l'étaient au début du confinement?
Oui, les difficultés pour... on avait déjà des élèves en difficulté. Évidemment, ça n'a pas aidé, ça s'est détérioré. Ouais. Mais on a eu des enveloppes d'heures supplémentaires, qu'on appelle des HSE, pour justement mettre en place des dispositifs d'accompagnement plus importants que d'habitude.
À partir de septembre.
C'est quoi? C'est 130 000 heures. 130 000 heures, c'est ça?
Alors, je ne peux pas vous dire parce que...
130 000 heures par 200, vrai. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment conduire, d'accompagner les élèves à la rentrée, sur plusieurs mois d'ailleurs.
Ah oui, on nous a sollicité pour savoir les besoins qu'on avait en fonction du nombre d'élèves. Et donc, ça a été calculé par trimestre, les besoins. Et pour l'instant, on a au moins les moyens sur le premier trimestre.
C'est
parce
ça.
Que, évidemment, après, en vérifiant ce qui se passe, et s'il y a besoin, il y aura d'autres moyens de débloquer.
Et il y aura aussi des aides aux devoirs, etc. Enfin, il y a vraiment...
Il y a de l'accompagnement personnalisé. Et puis, il y a le dispositif en collège qui s'appelle Devoirs faits, où là, on a une heure en plus par semaine. Donc, ça peut peut-être pas paraître énorme, mais c'est déjà important, parce que ça fait 3 au lieu de 2, et où là, on prend en charge avec des assistants pédagogiques, avec des enseignants volontaires, des élèves de tous les niveaux, sur des heures après les heures classiques du cours.
Parfait. Merci à vous, Mathieu, c'était passionnant. Pour le coup, vraiment, vous êtes informé, au courant et dans la machine, donc c'est vraiment intéressant de vous avoir avec nous.
On espère l'être toujours... régulièrement.
Ah, Virginie Le Gard, encore une question à vous poser.
Oui, une toute petite question. Est-ce que vous avez pu identifier les niveaux où les élèves vont avoir le plus de difficultés en septembre?
Alors, ce sont les élèves qui vont rentrer en 5e et 4e. Donc, nos anciens élèves de 6e et 5e. Parce que les élèves de 4e, 3e durant le confinement étaient plus autonomes pour travailler à distance.
Parfait. Grand merci beaucoup Mathieu. Merci, bon courage à vous. Ah, ça va être un été studieux du coup pour vous, c'est ça? Vous aussi?
Oui, studieux, mais ça va, on est habitué.
Grand merci. Merci à vous deux, c'était intéressant de parler de cette rentrée scolaire, on est à un mois. C'était intéressant de mettre un peu les choses sur la table et de comprendre que ça va être une rentrée un peu particulière. Grand merci à vous deux, Gilles Claverol et Virginie Le Guay, d'être venus ce soir nous parler sur Europe 1. Bonne soirée.
Bonsoir.
Europe 1. La suite de votre grand journal du soir, Thierry Dagirel.
Dans un instant, le journal de 19h. La NASA sur Mars, lancement réussi. On en parle dans un instant, à tout de suite.